Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le magazine du week-end, c'est samedi et dimanche, 1h20 de décryptage de l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h et pour toujours sur franceculture.fr, à la réécoute et en podcast. Les résultats définitifs du baccalauréat ont été donnés jeudi avec un taux de réussite de 88,1%, point final d'une édition 2019 mouvementée. Entre grève de la surveillance et rétention des notes, certains professeurs ont marqué leur opposition à la réforme de l'examen voulue par Jean-Michel Blanquer. Le ton monte, les syndicats parlant d'autoritarisme, le ministre de l'Éducation nationale de sacrilège. Baccalauréat, une réforme pour le meilleur ou pour le pire, on en parle à partir de 13h15. Mais avant cela, retour sur une affaire qui mêle enjeux sanitaires et environnementaux, l'affaire dite des bébés sans bras, au lendemain de la publication du rapport d'experts commandé il y a 9 mois. Beaucoup de questions restent entières, à commencer par les causes de ces déformations congénitales. Ce qui se joue là, c'est évidemment la relation entre famille, scientifique et autorité sanitaire. Santé, environnement, un combat citoyen, c'est le sujet de la première partie du magazine du week-end.
La méthodologie d'exploration des cas, bon, elle est scientifiquement validée. Après, ce qu'on s'est dit avec François de Rugy, c'est qu'on a une autre agence qui est une agence de sécurité environnementale, l'ANSES, qui s'occupe de l'alimentation, des risques environnementaux. On s'est dit, faisons travailler ces deux agences ensemble. Donc, on relance une enquête avec les deux agences en même temps pour voir si leur regard croisé entre les médecins purs et durs de Santé publique France et les personnes qui connaissent mieux l'environnement trouveront une cause. En fait, on n'est pas content du résultat qui est on n'a pas trouvé de cause et donc on relance une enquête.
Le nombre d'enfants concernés par des agénésies, c'est l'un des points de crispation entre le comité scientifique et les familles.
Guidel, c'est 3 cas, 18 mois, dans le même village. L'un, c'était finalement que 6 cas sur une très longue période, dans 6 communes différentes dont certaines sont assez éloignées.
Pour les experts, le nombre de malformations dans l'un n'est donc pas anormal. Une décision que contestent les familles. Accompagnées de scientifiques indépendants, elles comptent bien mener leurs propres investigations.
La génésie transverse des membres supérieurs ou ATMS se caractérise par l'absence de formation d'une main, d'un avant-bras ou d'un bras au cours du développement de l'embryon. C'est cette malformation congénitale qui est à l'origine de l'affaire des bébés sans bras. Hier, le groupe d'experts qui avait été mandaté par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qu'on a entendu dans cet extrait sonore, et la directrice également de ce comité d'experts, Alexandra Benaki, qu'on a entendu à la fin. Donc ce groupe d'experts qui avait été mandaté a rendu son rapport. S'il fallait résumer simplement les conclusions de ces 256 pages très techniques, on pourrait le faire ainsi. Il est difficile et il sera peut-être impossible de trouver une explication. L'environnement n'est peut-être pas la cause, compte tenu de la faible prévalence statistique des malformations. Et il faut mener de nouvelles investigations avant de confirmer les agrégats ou clusters, c'est-à-dire un nombre anormalement élevé de bébés touchés, nés dans un périmètre restreint et dans un laps de temps rapprochés. Une seule chose est sûre pour les auteurs, ces investigations auront lieu dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, mais pas dans l'Ain. C'est pourtant dans ce département qu'était partie l'alerte, mais il n'y aurait aucune évidence d'agrégat. Ce rapport semble à l'image de cette affaire depuis ses débuts, marquée par des conflits entre scientifiques, empêchant d'un côté la manifestation de la vérité et de l'autre la prise de décision en matière de santé publique. Pour en discuter, deux invités, on va dire assez critiques du rapport qui a été rendu hier. La parole a été donnée largement à Agnès Buzyn, Alexandra Benaki notamment, qui est la directrice du comité des experts. Et donc voilà, on a pris le parti de vous inviter tous les deux. Emmanuel Amar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne infirmière épidémiologiste. Vous êtes l'une des protagonistes importantes de cette affaire puisque vous dirigez le registre des malformations de Rhône-Alpes, le REMERA, qui avait sonné l'alerte. Et donc évidemment, pour ceux qui connaissent bien la géographie, l'Ain, c'est dans cette région du Rhône-Alpes. Et donc c'est un département qui a été écarté. On va évidemment en discuter lors de cette émission. Avec vous, André Sicolella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chimiste et toxicologue. Psychologue, président du réseau Environnement Santé, spécialiste d'évaluation des risques sanitaires. Vous êtes également spécialiste, je crois, des perturbateurs endocriniens. Il en sera peut-être question au cours de cette émission. Je l'ai donc dit, une enquête avait été ouverte il y a un peu plus de 9 mois par la ministre de la Santé. Elle avait été confiée à plusieurs agences, l'ANSES, qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, à Santé Publique France, deux institutions missionnées donc par Agnès Buzyn et par le ministre de l'Environnement, qui ont rendu leur rapport. un rapport qui a plutôt déçu, on peut dire, les familles ont exprimé leur déception. Quel est votre sentiment à vous, Emmanuel Amar?
Oui, il a beaucoup déçu. Les attentes étaient fortes malgré tout, même si plus le temps passait, plus on avait l'impression qu'on voulait faire disparaître les clusters et disparaître l'idée aussi qu'on pouvait trouver des causes longtemps après un signalement, alors que, à l'évidence, au moment des signalements, rien n'avait été fait, donc on ne pouvait pas nous reprocher ce temps, cette durée si longue. Donc, le temps qui passait ne jouait pas en faveur de la recherche de la vérité, et on le constate là maintenant.
Alors, juste une question, est-ce qu'aujourd'hui, on voit encore de façon significative naître des bébés atteints de cette ATMS, de cette agénésie transverse des membres supérieurs? Je rappelle que vous dirigez donc un registre des malformations dans le Rhône-Alpes. Je signale, il sera peut-être question que des registres comme cela, il n'en existe pas dans toutes les régions et encore moins dans tous les départements. Mais quand même une question, puisque vous parlez du temps qui s'est écoulé depuis les signalements et de ces clusters, donc je rappelle, un nombre significatif d'enfants nés sur une période donnée, une période courte et dans un endroit précis, c'est un peu ce qui est reproché notamment aux exemples de l'un, au cas de l'un, c'est-à-dire d'être né dans des endroits différents et sur une période de temps trop longue. Je le signale quand même, parce qu'il faut quand même, dire. Voilà, alors est-ce qu'aujourd'hui il y a des bébés qui naissent encore avec ces malformations et comment sont constitués ces clusters?
Oui, des bébés continuent de naître, mais j'allais dire, ce sont des naissances attendues, c'est-à-dire que cette prévalence, c'est-à-dire le nombre d'enfants rapportés aux naissances constatées, n'excède en général pas une naissance pour 10 000. Donc naturellement, en la zone que nous surveillons, il y a à peu près 60 000 naissances. Donc tous les ans, nous avons à peu près 6 enfants qui naissent avec cette malformation.
Est-ce que c'est statistiquement significatif ou non selon vous?
Alors, ces nouveaux cas ne sont absolument pas statistiquement significatifs. Ce sont des cas dits attendus.
Alors, la parole à André Sicolella, puisque vous connaissez bien ces questions-là en tant que président de l'association Réseau Environnement Santé. Quel est votre regard, vous, sur ce rapport et qui se fonde, finalement, on le voit assez logiquement, puisque même Emmanuel Amar le dit à l'instant, sur une approche des statistiques qui fait dire qu'il n'y aurait pas... C'est difficile de conclure aux causes et aux raisons de ces malformations. Je vous redonne la parole dans une seconde, Madame Amar.
Oui, il y a un problème de méthode. Moi, je vais vous citer la première phrase de Madame Benaki quand elle nous a présenté effectivement ce rapport. Elle nous a dit le taux de malformation est le même depuis l'Antiquité. 3-5% depuis l'Antiquité. Alors là, j'ai découvert qu'il y avait des registres de malformations dans l'Antiquité. Enfin, on n'a pas eu d'éléments, évidemment, je plaisante. Cette phrase me donne la vision, effectivement, de Mme Benaki sur le sujet, qu'elle nous avait déjà exposé précédemment, pour elle. Et c'est la vision, en fait, qui est généralement portée par les cliniciens. C'est-à-dire qu'ils ont une vision effectivement qui est liée à leur spécialité. Donc le travail de la commission consistait à regarder les cas. Est-ce que c'est bien d'après les critères cliniques des cas d'ATMS ou pas? Voilà. Je ne dis pas que ce travail n'était pas à faire, mais c'était pas vraiment ça la question. La question c'est quel est le lien avec l'environnement? Et la partie environnementale, elle n'a pas été traitée. On a examiné dans la littérature, il y a 20 000 publications. Alors effectivement, on se dit, c'est un gros travail. Mais ce que j'ai fait remarquer, c'est qu'il y a quelques dizaines, peut-être une centaine actuellement, de substances chimiques répertoriées comme tératogènes. Et il fallait commencer par
là. Donc tératogène qui est susceptible de créer ces malformations. Tératogène,
ça veut dire qui induit des malformations, des monstres en fait, tératos. Donc il fallait commencer par là. Et notamment regarder les voies d'exposition et le travail qu'a fait le groupe qui a travaillé avec Emmanuel Amar sur le sujet était tout à fait intéressant en posant l'hypothèse notamment d'une contamination de l'eau.
Une question de méthodologie, Emmanuel Amar. Signalons quand même que ces questions de l'eau vont être prises en charge là bientôt par Santé publique France, donc encore une fois dans deux départements, et que l'ANSES va mener des investigations sur les produits phytosanitaires.
Oui, alors je pense qu'il faut peut-être revenir à la question, est-ce que oui ou non, il y a un excès de cas dans l'Ain, dans cette fameuse zone. Je voudrais rappeler quand même un petit historique qui a consisté En octobre 2018, le directeur général de Santé publique France annonce « Nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions faire en matière d'investigation ». Première chose. Deuxième chose, il annonce, à cette époque-là, nous n'avions identifié dans la zone, dans cette zone-là, que, entre guillemets, bien sûr, hein, 7 enfants nés sans bras. Il annonce, nous avons découvert 11 cas supplémentaires suspects, ce qui amenait à 18 le nombre d'enfants porteurs de cette malformation dans l'Ain. Mais ces cas supplémentaires suspects étaient étalés sur une période qui allait de 2000 à 2017. Et quand on fait le compte tout simple, nous avons 11 plus 7 égale 18, 18 sur 18 ans égale 1 cas par an, donc pas de cluster circulé. On ferme le banc. Sauf que Romera est piqué à vif, on va dire les choses telles qu'elles sont.
Romera, c'est donc l'agence que vous...
C'est le registre.
Le registre que vous...
Nos enquêtrices disent, on ne peut pas avoir laissé passer des cas comme ça, et elles vont les retrouver tous, puisqu'ils relèvent d'un programme de médicalisation, et on nous donne des numéros, on les retrouve. Aucun de ces 11 cas, aucun de ces 11 cas est un cas supplémentaire d'agénésie. Donc, ils ont été inventés, et on avait agrandi la période. Nous avons maintenant affaire à un statisticien qui est en fait un accordéoniste, qui avait agrandi la période de 2000 à 2017, et maintenant il va la resserrer, et on va passer non plus de 2009, 2010 ou 2011, où il y a véritablement des cas, ces enfants existent, ils sont là, ils ont un nom, un prénom, mais pas de bras, et il resserre la période à partir de 2012, et de 2012 à 2014, il dit il n'en reste plus que 6, donc il n'y a pas d'excès de cas. Manifestement, la vérité va être démontrée. Nous sommes en train de publier un article scientifique qui va démontrer la réalité de ce cluster. Donc je tiens quand même à ce que cela soit bien clair dans l'esprit de tout le monde.
Alors j'espère que c'est clair. Je crois qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour bien éclaircir les choses, parce que c'est vrai qu'on aborde là des questions qui sont un peu techniques. Voilà, à la rencontre de la méthode scientifique
et en même temps des cas individuels
De gens qui, évidemment, ont envie de savoir pourquoi l'enfant qui est né a un bras en moins ou pas, Andrés Pelella.
Le deuxième aspect qui est de cette enquête, c'est de faire des propositions pour voir comment traiter ce genre de problème. Or, les propositions du rapport sont quasi nulles de ce point de vue-là. Moi, j'avais été auditionné par le comité scientifique, j'ai proposé notamment qu'à la naissance, systématiquement, on collecte des prélèvements biologiques, notamment le méconium, qui est la première selle du nourrisson, qui vous donne un niveau de contamination pendant la grossesse. Mais si on faisait ça systématiquement, ce serait utile à la fois par rapport à ce type de pathologie, la TMS, mais de toute façon pour toutes les grandes maladies chroniques. Vous voyez, j'ai cité effectivement une étude qui a été faite en Picardie, qui montre effectivement, en donnant dans le méconium, on a, dans 50% des cas, on trouve des pesticides organophosphorés. Ben voilà, ça, ce serait intéressant de faire le lien avec les maladies chroniques. Plus largement que la TMS, une donnée récente qui est publiée sur les prélèvements de cheveux, analyse d'ephtalate dans les cheveux et lien avec troubles du langage de l'enfant. Vous voyez, c'est cette vision-là qu'il faut avoir aujourd'hui, pour arriver à comprendre, parce que les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des maladies ont leur origine dans des expositions pendant la grossesse. Ce n'est pas simplement, vous voyez, la TMS est petit, finalement, très petit. Mais si vous regardez le diabète, l'obésité, les cancers, les troubles de la reproduction, l'infertilité, tout ça en grande partie provient d'expositions pendant la grossesse. Donc, il est très important de savoir ce qui se passe pendant la grossesse et d'avoir des éléments. Et là, de ce point de vue-là, notre dispositif est totalement ringard.
On va y venir, André Sicolella, mais j'aimerais qu'on reste quand même un tout petit peu encore sur ces cas d'ATMS, si vous le voulez bien, Emmanuel Amar, parce que finalement, ça nous sert de point de départ pour essayer de comprendre un petit peu comment à la fois on mène une enquête sur ce type de malformation, comment c'est organisé à la fois au niveau régional et au niveau national, et comment, oui ou non, il y a une véritable volonté aujourd'hui de la part des autorités sanitaires de trouver les causes de ce type de malformation. Parce que c'est vrai qu'on peut parler statistiques, et à ce moment-là, voilà, on parle santé publique, on parle statistiques, il n'y a pas vraiment d'autre façon de le faire, disons-le clairement, quand on veut prendre des décisions. Et en même temps, voilà, il y a des cas individuels aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, pour le coup, il faut trouver des réponses. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une volonté d'y parvenir, selon vous, aujourd'hui, Emmanuel Amar?
Alors, il y a plusieurs questions en une. Est-ce que c'est possible? Et c'est dans tous les cas très difficile. Je vais faire un petit rappel. Les malformations, c'est entre 4 et 5% des naissances. En France, on a 750 000 naissances, donc on a un peu plus de 30 000 malformations par an, plus ou moins graves. Dans ces 30 000 malformations que nous constatons chaque année, plus de 60% d'entre elles ont une cause totalement inconnue encore à notre époque. Mais il y a 15 ans, quand j'ai commencé, c'était déjà comme ça, 60%. Il y a très très peu de recherches. Et dans ces 60% inconnues, enfin dans toutes ces malformations, devrais-je dire, on estime à environ 5% la cause de ces malformations qui serait liée à une origine environnementale. Alors comme ça, ça nous dit pas grand-chose. Mais quand on le ramène au nombre de malformations qui naissent sur notre territoire, environ 1600, 1700 d'entre elles seraient liées à des facteurs environnementaux. Et face à cela, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Face à ces 1700 malformations qui sont donc évitables, puisque c'est l'environnement, ça on peut s'en prémunir, qu'est-ce qu'on a mis en place? Eh bien, 6 registres. 6 registres qui ne surveillent pas toutes les expositions en France, qui surveillent
19% du territoire.
19% des naissances, pas du territoire. Oui, des naissances, mais... ça revient un petit peu au même, il faut dire. 19% des naissances, et donc ça veut dire que plus de 80% des grossesses sont exposées à des substances que nous ne connaissons pas, pour lesquelles il y aurait peut-être des actions à mettre en œuvre. Ça, c'est un point qui est quand même important. Alors, qu'est-ce qu'on sait ensuite des phénomènes environnementaux? On le sait grâce à des données des registres, par exemple pour les malformations liées à un médicament qui s'appelle la dépakine ou l'environnement pour certaines malformations génitales du petit garçon, mais on le sait aussi grâce à des cohortes qui ont été mises en place, qui ont montré par exemple les effets des solvants de certains pesticides. Certaines nanoparticules aussi, très 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 fines, sur les grossesses en cours. Donc, est-ce que maintenant il y a une volonté pour connaître la cause des malformations de nos enfants nés sans bras, à partir du moment où on ne va chercher que dans les bases administratives, c'est ce qui est proposé.
Donc sans enquêter, vous voulez
sans
dire.
Sans enquêter, que dans les bases administratives, donc des bonnes pratiques. Parce que dans les bases administratives, on ne dit pas qu'on a utilisé un produit interdit, ça ne se fait pas ça, jamais.
On a priori, dit pas, oui.
Voilà. Donc là, on peut se
dire... Oui, par exemple, les registres d'épandage, c'est ce exactement. À quoi vous faites référence voilà. À l'instant, Emmanuel Amar. André Sicolella, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque vous parliez de méthodologie scientifique tout à l'heure, parce qu'encore une fois, il faut être rigoureux dans ce type d'affaires. Étant donné le faible nombre de cas, encore une fois, étant donné qu'il y a des causes multiples, vous l'avez dit, il peut y avoir des causes génétiques, des causes liées à des substances toxiques, ça vient d'être dit, des causes liées à la prise de médicaments, comme la dépakine, qui est un médicament, je crois, contre l'épilepsie, sur lequel vous avez travaillé aussi, Emmanuel Amar. Bref, les causes sont multiples, et donc il est très difficile, sur des cas très très faibles, enfin sur un petit nombre de cas, et donc c'est très difficile scientifiquement d'établir des relations de cause à effet.
Ça n'est pas simple, mais ça n'est pas forcément très difficile, et on a des exemples historiques. Je pense à l'affaire du Distilbène, qui démarre au départ, ce médicament utilisé dans les années 50-60, pendant la grossesse, et ça part de 4 observations. 4 observations. Un médecin...
Sur des malformations
Alors, c'était utérine. Des cancers du vagin, cancer rare. Après, on s'est aperçu que ça donnait des malformations. Et c'est pour ça, le raisonnement purement clinique passe totalement à côté de ça. Une substance peut avoir des effets. Alors, ce fameux Distilbène, il induit des cancers du vagin, mais après, on s'est aperçu qu'il induisait des cancers du sein. Il induit chez les petits-fils, les fils et les petits-fils, des malformations génitales, mais en plus une infertilité. Donc, vous voyez, mais le problème, la vision d'un certain nombre de cliniciens reste liée à une relation, une cause, un effet. Voilà. Il ne peut pas y avoir une cause et plusieurs effets. Alors que la question des maladies chroniques, justement, c'est une multitude d'effets qui sont liés à une multitude de causes. Donc, c'est un peu plus complexe, mais, il faut surtout pas baisser les bras. Et on a des exemples, quand on, je cite cette affaire du Distilbène, on a des explications.
Avec une mobilisation des malades qui a été très importante dans cette affaire du Distilbène, on y viendra dans quelques instants pour parler un peu démocratie sanitaire aussi, mais vous vouliez réagir, Emmanuel Amar.
Oui, je voulais dire que, il est vrai qu'il est très difficile de mettre en évidence un lien de causalité, j'entends, entre une exposition donnée et une malformation. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher uniquement là où le lampadaire est éclairé.
Non, mais je ne voulais pas parler que de difficultés, je voulais parler même de possibilités, étant donné l'étendue des cohortes et étant donné également la multiplicité des facteurs.
On est bien d'accord, mais on va faire référence quand on dit que c'est difficile. Ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises, on nous a dit que le rapport bénéfice-coût de l'enquête était en défaveur d'une enquête parce que jusqu'à présent, l'étude des clusters n'avait jamais vraiment montré la présence vraiment d'une cause. Mais on faisait référence aux cancers, qui sont des pathologies très différentes. Entre le moment où il y a l'exposition et le moment où la pathologie se développe, il peut se passer de nombreuses années. En revanche, pour les malformations, on a une fenêtre d'exposition qui est très très courte, qui est de 2-3 mois avant la naissance, la conception, pardon, 3 mois après. Cette fenêtre est très courte, donc on peut facilement la documenter et on a une autre chance, entre guillemets, parce que là je parle, bien évidemment, on parle de quelque chose de dramatique, mais on a une autre chance, c'est que ces malformations, elles sont toutes identiques, très spécifiques. Donc on a les deux atouts. C'est-à-dire cette fenêtre courte, la spécificité de la malformation, parce que parfois vous avez des clusters où il y a des malformations différentes. Là, ce ne sont que les mêmes malformations. Donc ce sont des atouts en faveur de la recherche.
Emmanuel Amar, qu'est-ce qui vous convainc à ce point-là qu'il y a dans l'affaire des ATMS, qu'il y a donc des bébés sans bras, qu'il y a un lien, une relation de causalité entre l'environnement et cette situation? Vous avez annoncé la publication prochaine d'un article scientifique. Oui. Voilà, qu'est-ce qui vous donne cette conviction qui n'est pas partagée, encore une fois, manifestement, par le comité scientifique qui a été en charge de ce rapport?
Le comité scientifique pourrait le penser s'ils avaient mesuré correctement les données. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va penser environnement? C'est pas tabou de penser environnement, hein, je veux dire par là.
De moins en moins, en tout cas.
De moins en moins, mais je veux dire, c'est pas un vilain mot. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a pu exclure les causes qui étaient endogènes, donc propres à la personne, à la mère notamment, facteurs génétiques, exactement, toutes les maladies héréditaires qui auraient pu être héritées, mais aussi tous les facteurs, les maladies qu'elle a pu avoir pendant la grossesse, des fièvres, des hypotensions, enfin, d'autres pathologies, etc. Qu'est-ce qui reste quand vous avez des cas groupés qui se trouvent dans un environnement, si ce n'est l'environnement? Donc, il se trouve qu'on a des cas groupés dans l'un, on peut se dire environnement, mais dans le même temps, dans des endroits différents de notre territoire, on se retrouve avec d'autres agrégats exactement de la même façon, la même malformation. Ça n'est jamais arrivé.
Et dans des zones rurales.
Et dans des zones rurales qui sont humides, donc elles ont des points communs. Et les points communs sont aussi que les mères n'ont pas ces facteurs de risque habituellement connus. Donc l'environnement, on va y penser sans certitude, mais ça doit être une hypothèse.
André Sicolella, je rappelle, hein, vous êtes le président de l'association Réseau Environnement Santé, vous êtes intervenu un petit peu pour dire, voilà, c'est quand même, ça reste un tabou un petit peu, cette approche environnementale de ce type de maladie. On lui préfère une approche statistique, clinique, telle qu'elle se développe aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque selon vous?
Il y a un formatage intellectuel, je pense que c'est... On va pas. Enfin, certains disent c'est les lobbies, etc. Moi, je ne pense pas. Je pense que la première cause, c'est le formatage intellectuel.
Une forme d'inertie.
Non, c'est parce que beaucoup de professionnels de santé publique et des médecins ont une formation qui est une formation basée principalement au départ sur les pathologies infectieuses. Donc, la pathologie infectieuse avait une cause, un effet. Hein, voilà. Là, on est face à l'épidémie, une épidémie mondiale de maladies chroniques et l'absence de vision.
Qui demande de regarder globalement, c'est-à-dire pas une maladie en particulier.
Un changement de paradigme, cette transition épidémiologique fait que il faut la comprendre avec un regard totalement différent. On n'est pas dans une relation une cause, un effet, une cause. C'est une multiplicité d'effets et une multiplicité de causes. Donc ça change. Mais voilà, la science a évolué. Aujourd'hui, elle nous dit effectivement, notamment l'exposition pendant la grossesse, génère des maladies qui surviennent 50 ans, ans, 60 ans après. Vous comprenez? Moi, quand j'ai fait ma formation, bon, ça, on n'avait pas du tout cette notion. Donc c'est un peu compliqué de dire, bah oui, je vous ai dit ça pendant un certain temps, mais c'était pas vrai, donc maintenant il faut que je change. Vous voyez, c'est, psychologiquement, c'est toujours un problème. Et donc on est dans cette phase-là aujourd'hui, et c'est la philosophie encore de Santé publique France, pas de tout le monde à Santé publique France, mais c'est encore cette agence s'est construite par rapport au risque infectieux, et regardez les programmes, c'est principalement sur ces questions-là. La prévention, c'est principalement les facteurs individuels, les addictions, le tabac et l'alcool. Regardez les données sur le cancer qui sont sorties il y a 15 jours. On nous dit tabac-alcool. Mais attendez, progression du cancer du sein, c'est pas tabac-alcool. On a un doublement, hein, un doublement entre 90 et 2018. Si en continuant de raisonner comme ça, on passe à côté des problèmes et on n'attaque pas les sources, la source de ces problèmes. Et c'est ça l'enjeu.
Alors l'enjeu, il est aussi de nature démocratique. Je le disais tout à l'heure, une question de voilà, il y a une expression qui est entrée dans le langage politique, c'est celle de démocratie sanitaire. C'est une démarche qui associe l'ensemble des acteurs du système et donc également les malades. Évidemment, on pense à ce qui s'est passé au moment du sida. C'était un moment très important pour changer justement de paradigme et imaginer à quel point les malades peuvent être aussi des spécialistes de leur propre maladie. Aujourd'hui, c'est un enjeu important. Emmanuel Amar, est-ce que c'est de nature à changer les choses? Vous êtes épidémiologiste, on vient de l'entendre. Il faut changer un peu les regards sur ce type de cas. Est-ce que le rôle des malades peut être important en la matière?
Oui, bien sûr. Je vais donner des exemples très précis, très concrets, parce que ça nous donnera une idée de ce que c'est que cette prise en compte de la démocratie sanitaire concrètement, et ce qui ne correspond pas obligatoirement à ce qui est dit. Depuis le début de cette affaire, donc depuis 2010 où on a fait le premier signalement, 2011 ensuite, tous les ans, il y a une réunion à Santé publique France au cours de laquelle je demande à ce que les associations, puisqu'il y a une association de famille qui s'appelle l'ACDA, de parents, de familles, d'enfants qui ont cette agénésie, je dis, la démocratie sanitaire, elle doit réunir les acteurs, tous, les personnes concernées, à tous les stades de la décision. C'est pas à la fin, on fait une conférence de presse, et par la presse, on apprend que la décision a été prise. C'est à tous les stades, parce qu'ils ont quelque chose à dire. Par ailleurs, on l'a beaucoup compris, on a même des patients experts dans notre système de santé. Il faut pas dire tout noir, tout blanc. On a des choses qui avancent, mais pas au sein de Santé publique. Dans ce groupe malformation, où de tous les ans, on me dit « Ah oui, ben l'année prochaine, on y pensera ». Et ça n'est jamais, jamais arrivé. Autre exemple, la mise en place de ces deux commissions. On dit, Habermas disait, quand il y a un déficit de démocratie, quand l'un des cercles de ceux qui décident ne croise pas le cercle de ceux qui subissent la décision. Nous sommes un petit peu le cercle de ceux qui subissent la décision, puisque nous, registres et puis les familles. Lors de la première réunion du comité d'orientation, on nous a dit « Vous pourrez poser des questions au comité d'experts ». On a dit « Très bien, on leur pose comment, ils sont où ?» Ils sont anonymes. Vous n'aurez pas le droit de connaître leur nom.
Donc un problème de transparence.
Je pense quand même que la question de l'expert masqué, ça n'entre pas dans la définition de la démocratie sanitaire.
André Sicolella.
Mais oui, alors on a eu la liste finalement, mais c'était pas tellement le nom qui est important. Enfin, c'est la spécialité.
Comment il avait été
Je n'ai pas vu de toxicologue. Alors, ce n'est pas précisé. Peut-être qu'il y en a un caché.
Il y en a un. Oui, oui.
Or, cette dimension-là est essentielle. On ne peut pas regarder une question comme celle-là à partir d'une seule approche, qui est l'approche de l'épidémiologie ou l'approche de la clinique. Il faut regarder l'approche de la toxicologie. Qu'est-ce que les données expérimentales nous donnent? Et moi, j'ai été très surpris de voir qu'on nous a annoncé qu'on ne tenait pas compte des substances qui sont déjà classées comme tératogènes. C'est extraordinaire. On part pas de rien. Est-ce qu'il faut reprendre l'ensemble de la littérature scientifique? Non. C'est déjà des substances classées. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'on les trouve particulièrement?
Est-ce qu'il y a malgré tout, finissons sur une note quand même un petit peu, je dirais, presque optimiste, André Sicolella, vous êtes optimiste? Ben c'est parfait, alors soyons optimistes pour les trois dernières minutes. Est-ce qu'il y a malgré tout une prise de conscience de plus en plus importante de l'importance de l'environnement dans les questions de santé? On a en ce moment la discussion d'un quatrième plan santé-environnement, il y en a donc eu trois précédemment, si je compte bien. Ça veut bien dire qu'il y a des autorités politiques, publiques, qui prennent en compte ces questions.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que je vois la société bouger. Nous avons lancé une campagne qui s'appelle « Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens ». On pourra faire une émission si vous m'interrogez sur le sujet, parce que c'est une mobilisation de la société civile, sans attendre effectivement une décision qui, dans ce niveau-là, se joue à Bruxelles, dans des conditions extrêmement difficiles d'ailleurs. Eh bien, la société se mobilise, les collectivités locales prennent des décisions, notamment Paris, par exemple, a dit ben, on demande à nos fournisseurs de produits de nettoyage, des produits de nettoyage sans alkylphénol, grande famille de perturbateurs endocriniens, premier polluant de l'eau. Voilà, et ben on va résoudre le problème des alkylphénols dans l'eau en utilisant des produits sans alkylphénol. Voilà, cette mobilisation est très importante. 3 régions, 2 conseils départementaux, près de 200 communes. Voilà, il y a une dynamique qui se crée. Et on voit bien que la société civile ressent cette crise sanitaire, parce que quand on a une augmentation des maladies chroniques, voilà, je citais le cancer, mais on peut citer le diabète, on peut citer les maladies cardiovasculaires, les troubles du comportement, l'autisme aujourd'hui, on est à presque un enfant sur 100. Vous voyez. C'est considérable. Tout ça ne peut pas venir simplement de conditions de dépistage ou de définition, comme on nous l'explique, où la faute n'a pas de chance. Non, c'est effectivement l'environnement, mais il faut regarder l'environnement de façon globale. Il faut là aussi casser les représentations. L'environnement, c'est pas simplement la pollution de l'eau d'un côté, de l'air, etc. C'est un ensemble, c'est la contamination chimique, c'est aussi la sédentarité, c'est aussi le travail, c'est vrai. Tout ça, c'est extrêmement complexe, mais nous sommes dans une période où on sait traiter les big data, eh bien, il faut effectivement utiliser ce potentiel technique pour essayer de comprendre.
Emmanuel Amar.
Oui, je reprendrai le dernier mot du big data. On a besoin de prévention pour la santé publique, on a besoin de prévention des malformations, et il ne sert à rien de mettre des préventeurs ou même... Il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui est très très bien, c'est des consultations préconceptionnelles où les gens peuvent discuter de leurs différentes expositions. Mais il faut pouvoir répondre à ces personnes sur des données fondées, hein, valides. Or, ces données manquent en France. On manque de données, là on parlait de big data, on m'a répondu, mais on fera de la fouille de données pour améliorer la surveillance, mais il faut des données de qualité, c'est ce dont on manque.
Notamment en augmentant le nombre de registres tels que celui
évidemment,
que vous
dirigez. Alors qu'on nous annonce...
On se dirige vers ça ou pas?
Mais pas du tout. On nous dit qu'il va y avoir un 7e registre. Je rappelle simplement qu'autrefois, il y avait un registre dans les Bouches-du-Rhône, il y avait un registre en Alsace, plusieurs départements. Le registre France 113 couvrait tous les départements de Rhône-Alpes, Bourgogne, la Franche-Comté. Donc, la nouveauté qu'on nous annonce comme étant une amélioration est en fait, c'est assez magnifique, ça, cette façon de le dire, une réduction de la surveillance, une réduction de données.
Merci beaucoup Emmanuel Amar, André Sicolella. Je note qu'on vous réinvite, André Sicolella, sur une émission sur les perturbateurs endocriniens. Merci d'avoir participé à cette première partie du magazine du week-end.
Il est 6h au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Qui rendent les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloger, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile.
L'habitude, évidemment. Attends, on entend déjà les invités de la deuxième partie, mais d'abord, il me faut désannoncer cette magnifique reprise de Christophe Les Mots Bleus par Johan Papa Constantino.
Le magazine du week-end, Raphaël Bourgois.
Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, mais on a des devoirs.
Les Français ont évidemment beaucoup de bon sens et ils savent bien que ce que nous avons visé du début à la fin, d'ailleurs, y compris au moment de la passation des examens, c'était le service public rendu aux élèves et que nous avons choisi les solutions qui permettaient que les élèves puissent avoir leurs résultats à temps et qu'il y ait le moins de nuisances possibles liées à certains troubles qu'une petite minorité avait provoqués. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'incident est clos, on doit passer à autre chose. Et mes pensées, elles sont toujours pour les élèves. Et je veux les féliciter pour leur réussite et leur dire tous mes vœux pour la suite.
Nuisances, prise d'otages, les mots très durs employés par le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale pour évoquer la grève des correcteurs laissera certainement des traces. Au final, on estime qu'il y a eu moins de 100 centres d'examen perturbés sur 1500 et 30 plus sévèrement que d'autres, 80 000 copies manquantes selon le secrétaire d'État Gabriel Attal, 110 000 sur 4 millions selon le SNES-FSU et surtout la session 2019 du bac entachée de forts soupçons car il a fallu parfois bidouiller, il n'y a pas vraiment d'autre mot, les résultats. Cette école de la confiance voulue par le gouvernement serait-elle sur le point de se bâtir sur la défiance entre l'éducation nationale et les enseignants? Côté syndicat, on pointe du doigt une gestion autoritaire de la réforme du bac. Côté ministère, on remarque que les grévistes étaient très minoritaires. Au final, l'objectif premier est commun de tous, réduire les inégalités scolaires, tant la France apparaît en la matière le mauvais élève des pays de l'OCDE, et passer par pertes et profits. Pour comprendre ce qui coince et tenter de dépasser l'approche dogmatique qui domine trop souvent les débats sur l'école, nous avons invité les représentants des deux partis, évidemment, même si la situation est loin de pouvoir se résumer à un affrontement binaire. Jean-Marc Huard, bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Vous êtes ce qu'on appelle le DGESCO, le directeur général de l'enseignement scolaire, oui. Disons le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, poste qu'a par exemple occupé l'actuel ministre Jean-Michel Blanquer, c'est entre 2009 et 2012. Avec vous, quelqu'un que vous connaissez bien, pour pratiquer évidemment lors des discussions, Frédéric Rollet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale du SNES-FSU, qui est donc le syndicat du second degré le plus représentatif aujourd'hui. Alors, il faut revenir sur cette affaire de la rétention des notes par certains correcteurs, qui n'est pas une grève de la correction, comme on a pu l'entendre. Quel regard portez-vous, finalement, Jean-Marc Huard, puisque le point final a été mis par le ministre de l'Éducation nationale hier. Quel regard vous portez, finalement, sur cette action? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Moi, je crois que la première chose importante à dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 666 000 nouveaux bacheliers. Et je crois qu'il faut...
88,1%.
88,1%, ce qui est un taux d'ailleurs de réussite tout à fait conforme à ce qu'on a eu les autres années, en tout cas ces dernières années. Donc on est au bout du compte dans une situation qui est une situation normale, où il faut féliciter les lauréats. Après, on est passé effectivement par des moments compliqués, après des menaces de grève des surveillances. On a eu un épisode qui est un épisode de canicule qui nous a amené à prendre des dispositions sur le brevet. Et puis effectivement, ce dernier épisode qui est évidemment regrettable, qui est la rétention des copies. et qui, quand même, grâce aux 75 000 correcteurs qui ne sont pas rentrés dans le mouvement, grâce à la réactivité, à la loyauté, au sérieux de des services de l'éducation nationale, bien finalement, nous avons, comme je le disais au début, 666 000 bacheliers.
Des bacheliers qui ont leur bac de la même façon que les années précédentes.
Oui, encore une fois, les résultats sont ceux que j'indiquais, ou que vous indiquiez d'ailleurs il y a un instant. 88,1% d'admis, c'est même 0,2 points de moins que
l'année dernière. Je parlais plutôt de la qualité, en tout cas qu'on peut attribuer aux notes qui ont été données, puisqu'on a parlé de remplacement, voilà, de l'utilisation des notes de contrôle continu pour remplacer les notes qui n'avaient pas été obtenues par la voie de l'examen.
Alors, pour assurer la continuité du service public, effectivement, il y a une décision qui a été prise, puisque nous étions le jour des délibérations avec, pour à peu près un peu plus 50 000 candidats, dans une situation où nous ne disposions pas des notes. Et c'est ça qui est regrettable. Donc il fallait assurer la continuité du service public, et le ministre a effectivement décidé que tous les candidats, le jour J, auraient le résultat, ce que nous avons fait.
Frédéric Rollet, une situation normale pour vous aussi, comme vient de le dire Jean-Marc Huard?
Non, je crois que le ministre et le gouvernement auraient tort de ne faire qu'insister sur la minorité qui aurait agi contre la politique éducative en pratiquant ce qu'est le droit de grève, puisque ce qu'ils ont fait simplement c'est le droit de grève. Parce que il faut surtout réfléchir à ce que cela dit, quoi. Ce que cela dit d'un malaise qui est beaucoup plus, qui est très ancré, qui est profond dans la profession et qui est suscité par la réforme du lycée et par la réforme du baccalauréat, dont une grande majorité de collègues considèrent qu'elle va avoir des conséquences très fortes sur leur métier, sur leur pratique professionnelle et sur les questions d'égalité.
On y viendra évidemment à cette réforme du bac sur le fond, Frédéric Rollet, mais quand même restons un tout petit peu sur cette situation qui marque quoi ? Une rupture de confiance entre les syndicats notamment et les professeurs avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a encore des choses à négocier justement sur cette réforme du bac. Je pensais au grand oral, par exemple.
Oui, alors il y a encore des choses à négocier, mais ce que je regrette, c'est que le ministre n'ait pas donné de signe d'ouverture avant, puisque cette séquence finale, j'allais dire, est le fruit quand même de longs mois d'alerte qui se sont manifestées par différents biais, des grèves, des manifestations, des pétitions. On a vu fleurir pas mal de tribunes dans les journaux, que ce soit sur les programmes ou sur l'architecture du nouveau lycée, sur les choix de spécialités qui n'étaient pas implantés de la même façon dans tous les établissements, sur le fait que certains parcours allaient être plus valorisés que d'autres. Enfin, il y avait toute une série de questions qui auraient dû être prises au sérieux et qui auraient dû donner lieu très très vite à des concertations véritables.
Jean-Marc Huard, un manque d'écoute de la part du ministère de l'Éducation nationale ?
Alors, absolument pas. Enfin, la porte du ministre et de l'ensemble des services du ministère a toujours été ouverte. Je ne vais pas vous indiquer le nombre d'heures de réunions que nous avons pu avoir. La discussion a amené des choses très concrètes. Je rappelle que la réforme du lycée, c'est au moins 18 mois de travail. C'est d'abord un rapport, le rapport produit par Pierre Mathiot, qui a été soumis à discussion. C'est ensuite une phase de concertation. Par exemple, on s'interrogeait pour savoir si nous allions, pour la série technologique, avoir une organisation identique à celle que nous avons pour la série générale, c'est-à-dire un choix de spécialité beaucoup plus ouvert pour les élèves. Et puis finalement, c'est la discussion, c'est la concertation qui a amené à avoir une série technologique qui, avec des aménagements bien sûr sur le baccalauréat, retrouve aujourd'hui ces séries comme hier. Donc, et ça c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples. Par exemple, on nous a indiqué lors des discussions que il fallait être vigilant sur la part du contrôle continu qu'on mettait dans le baccalauréat, et notamment sur le fait que l'équité devait être préservée. C'est pour ça que nous avons une organisation dans laquelle il y aura des commissions qui regarderont les résultats du contrôle continu et que nous aurons une banque nationale de sujets. Je ne veux pas être trop technique, mais...
Non, mais on y reviendra un peu plus précisément, parce que c'est vrai que c'est des points importants
de l'équité.
Des points importants de cette réforme du bac, avec en ligne de mire, si je puis m'exprimer ainsi. Et je le disais en ouvrant cette émission, un objectif commun à la fois du côté du ministère de l'Éducation nationale et des syndicats, et de tous les professeurs, et des parents d'élèves, et des élèves eux-mêmes, c'est-à-dire réduire ce qui est un stigmate, une anomalie dans l'éducation en France, c'est-à-dire l'aggravation des inégalités, en tout cas pas une réduction significative des inégalités entre les élèves. Mais restons quand même encore un tout petit peu sur cette question du dialogue social, puisque c'est la formule consacrée, Frédéric Rollet. Comment expliquer que du côté des syndicats, on nous dise c'est une réforme qui est précipitée, qui n'a pas été assez discutée, et que du côté du ministère, on nous dise mais non, il y a eu plus de 90 réunions, 18 mois de concertation, des heures et des heures incalculables à parler avec les syndicats?
Alors, il y a deux types de problèmes. Un problème d'articulation des différents sujets. On est en train de vivre la même chose, d'ailleurs, sur le dossier de la formation des maîtres. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à scinder les sujets sans avoir à un moment une grande vision d'ensemble, et notamment de regarder ce qu'étaient les contenus des programmes, ce qu'étaient les contenus des épreuves des finales. Par exemple, les professeurs de français ont très vite dit, puisque les élèves passent l'EAF, ce qu'on appelle l'EAF, hein, l'épreuve anticipée de français dès la première, mais nous ne savons même pas comment nous devons préparer nos élèves, parce que nous devons les préparer à quoi? Quel type d'épreuve? Nous ne le savons pas. Donc, tout a été, au-delà des grands objectifs politiques, hein, qui avaient été annoncés d'ailleurs par le président de la République, on va réformer le lycée, le bac, ce en quoi personne n'avait de désaccord a priori, on s'est trouvé devant des dossiers donc scindés, une volonté d'aller très très vite, des retours en arrière quelquefois quand on voyait que ça fonctionnait pas. Et puis, alors sur la porte du ministre, j'ai dit en plaisantant sur un autre média que la porte devait être blindée parce que moi je m'y suis cassé les dents, mais j'ai plusieurs fois demandé au ministre à être reçu pour l'alerter sur ce qui se disait dans les salles des profs et ce que disait la profession, puisque c'est lui qui est quand même, qui à un moment peut décider, hein, c'est l'instance de décision, le ministre. Les services ont beau faire tout le travail qu'ils veulent. Et on a eu quand même des épisodes significatifs, si vous voulez, des conseils supérieurs d'éducation où on se retrouve avec, par exemple, des projets de programme qui ne remportent aucune adhésion. Et qui sont quand même validés. Donc tout ça a donné quand même un sentiment que les choses se faisaient uniquement d'un côté, quoi.
C'est une architecture complexe, hein, Jean-Marc Heur, parce qu'on voit que dans cette discussion qu'on passe des programmes à l'organisation du bac, de la réforme des filières, voilà, et donc tout est lié.
Oui, mais la réforme, effectivement, elle est globale et elle était nécessaire, hein, cette réforme. Hein. Encore une fois, effectivement, quand on regarde les résultats du bac, on peut avoir l'impression que tout va bien, mais je rappelle qu'il y a 6 étudiants sur 10 qui échouent en première année d'université. Donc il fallait absolument réformer le baccalauréat. Je voudrais réagir sur deux points. Bon, déjà, les épreuves, et notamment l'épreuve anticipée de français, les définitions d'épreuves sont connues depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ont été publiées. Ensuite, sur les éléments de discussion, on a vécu effectivement des séquences, qui étaient des séquences de discussion. Donner tout d'un coup n'aurait pas permis une construction dans le dialogue. Donc c'est vraiment cette construction dans le dialogue. Et puis je voudrais revenir aussi sur la question du climat que Madame Rollet évoque dans les salles des professeurs. Je crois qu'à force de dire, de vouloir dire que tout va mal, je pense qu'il y a des gens qui peuvent effectivement le penser. Il y a quelques mois également, nous avons eu un débat par médias interposés sur le choix des spécialités des élèves, puisque le syndicat, le SNES, dont Madame Rollet est responsable, avait publié effectivement une indication en disant bah, finalement la réforme change rien puisqu'on rétablit les filières.
Oui, on avait fait des statistiques sur un certain nombre de
choses. Vous aviez fait des statistiques, et nous en même temps on avait des remontées, puisque sur un peu moins de 300 000 élèves, simplement à monter, qui nous disait absolument pas ça. Or, là, maintenant, nous avons des éléments très précis qui montrent que les élèves se sont parfaitement emparés de la réforme et que nous n'avons absolument pas de reconduction des séries telles qu'elles étaient. Et heureusement, parce que les séries actuelles sont inégalitaires, en effet. La série scientifique actuelle est marquée socialement. Et donc, il fallait absolument sortir de cela. Donc, si on dit, il y a 4-5 mois, que ça ne va pas et que finalement tout est reconduit alors que ce n'est pas la réalité, eh bien oui, ça peut effectivement créer un doute chez un certain nombre de nos collègues. Donc il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On est dans une situation aujourd'hui où les élèves se sont emparés de cette réforme et profitent de la liberté qui leur est donnée et sont globalement très très contents de cela.
Vous avez tellement envie de rentrer dans le détail de cette réforme qu'on va le faire, même si j'avais encore deux ou trois questions un peu plus générales, mais peut-être que j'aurai l'occasion de les poser à la fin. Alors commençons, puisque Jean-Marc Huard nous y invite, Frédéric Rollet, à parler de cette réforme massive qui est la disparition de LSES, donc les sections qui étaient pour le bac général. Encore une fois, il faut dire aussi, d'ailleurs, c'est juste une incise, mais qu'on parle beaucoup du bac général, beaucoup moins des questions du bac technologie. C'est même devenu presque un poncif du journaliste qui pose des questions sur la question. Oui. On le dit, mais rarement on le fait. Il y a quand même des émissions ici qui le font. Mais voilà, voici qui est dit. Il y a des résultats qui ont été publiés, notamment hier dans Le Parisien, aujourd'hui en France, sur les choix des élèves. Et on voit en effet qu'il y a une répartition qui a assez importante entre les différentes sections, qu'il n'y a pas véritablement de reconstitution des filières telles que vous auriez pu le craindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Pas exactement, parce qu'on regarde quand même une suprématie de la triplette mathématiques, sciences physiques, sciences et vie de la Terre. Bon. Ce qui correspond en gros à ce qu'était la série S. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est la sociologie des élèves qui choisissent cette triplette. Il se trouve que nous, on a beaucoup de militants qui sont profs de sciences économiques et sociale, donc un peu vous, comme vous, et donc habitué.
C'est un autre sujet, on ne va pas se lancer sur
la méthodologie de la sociologie. Que... Bon. Et on a regardé quels étaient les profils des élèves. Et ce sont en général ce qu'on appelle les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui sont les plus congruents avec la culture scolaire. Et puis, vous en avez d'autres qui se sont retrouvés un peu désarmés devant une espèce de choix, mais qui n'était pas de choix guidé, où ils se sont dit, on nous a dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait. Puis bon, heureusement, quand même, les collègues les ont aussi, à un moment, évité de se fourvoyer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a Parcoursup. Et que vous avez toute une série d'élèves qui vont se retrouver ensuite avec des oui-si, c'est-à-dire oui, mais vous n'avez pas tout le profil, il faut un complément, ou bien même refuser. Donc, en fait, on a gardé la suprématie de certaines filières en même temps en abrogeant les filières. Enfin, pour aller très vite, moi je pense qu'il fallait commencer par savoir quels étaient les objectifs qu'on se fixait, quel était le diagnostic. Le diagnostic, c'était une filière, elle, qui était en déshérence, et nous avions des propositions sur le sujet, alors notamment réintroduire les mathématiques en première littéraire, parce que là on en arrive au paradoxe, après toute la communication qu'il y a eu sur la place des mathématiques dans la culture commune, hein, et pas seulement pour faire des spécialistes.
De la disparition des mathématiques dans le
tronc commun. On aura moins d'élèves qui vont faire de maths que maintenant. Donc c'était le premier point. Sur les épreuves, il y avait le problème de la nature des épreuves, il fallait en discuter. Le problème de la compensation, parce qu'il y avait des discours qui reviennent sur un élève à un bac S, mais en fait il l'a eu parce qu'il a eu des bonnes notes, grâce aux options, grâce à la philo, grâce, etc., etc. Donc tout ça pouvait se discuter. Et là, on a choisi d'instaurer un système qui va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus chronophage et beaucoup plus inégalitaire.
Oui, Frédéric Rollet le fait remarquer, Jean-Marc Huard, c'est la question de la complexité et de l'accompagnement des élèves qui est mise en cause principalement par les professeurs dans ce choix de faire disparaître les spécialités, enfin de faire apparaître les spécialités au détriment des sections. Quelle est la réponse que vous apportez à cela?
Je crois que les professeurs ont accompagné cette année les élèves dans leur réflexion.
C'est ce qu'on attendait d'eux, ils n'avaient pas vraiment le choix.
Je pense qu'ils l'ont fait en plus tout à fait volontiers et en conscience. Ils ont tellement bien accompagné les élèves dans l'explication de la réforme que vous avez à peu près 47% des élèves qui ne reconstituent pas, en effet, les menus imposés tels qu'ils étaient dans les séries L, E, S et S. Donc de ce point de vue-là, c'est une grande satisfaction.
Oui, c'est aussi la première année. On peut penser qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont marqués par justement ces grandes sections et que c'est pour ça aussi qu'ils les reconstituent un peu naturellement.
Moi, je ne fais pas de pari sur la manière dont ça va évoluer les autres années. Je ne sais pas. Après, il n'est pas incohérent qu'on ait effectivement 26% des élèves contre 52% aujourd'hui d'élèves qui suivent la série S, hein, donc 26% des élèves qui ont choisi la triplette mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre. C'est tout à fait cohérent. Voyez, il n'y a pas d'interdiction à avoir une triplette cohérente. Bien au contraire. En revanche, il y a une liberté supplémentaire. on parlait des sciences économiques et sociales, par exemple. Les professeurs de sciences économiques et sociales, à partir de la rentrée, vont avoir des élèves avec des profils extrêmement diversifiés. Les études suite à la série ES actuelle, on sait bien que, par exemple, dans les universités d'économie et gestion, un certain nombre d'élèves pouvaient avoir des difficultés parce que le niveau de mathématiques n'était pas suffisant. Eh bien, nous avons un certain nombre d'élèves qui, en liant les mathématiques aux sciences économiques et sociales, à l'histoire et géographie ou aux langues, eh bien, se préparent parfaitement aux études supérieures l'année suivante.
Alors, avançons un petit peu, si vous le voulez bien, Frédéric Rollet. En tout cas, montons un tout petit peu en généralité avant peut-être de redescendre dans le détail, parce que c'est vrai que c'est encore une fois des mesures qui sont très très techniques. Vous disiez tout à l'heure, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme. Le rapport Mathiot, donc qui a été évoqué tout à l'heure, qui est à l'origine de cette réforme, se donnait au moins trois objectifs résoudre la question de la lourdeur du bac et donc poser la question de cet examen terminal qui est très symbolique, mais qui pose un certain nombre de problèmes. À la fois en termes pédagogiques, mais aussi en termes économiques, interroger la valeur certificative du baccalauréat. C'est-à-dire, est-ce que véritablement aujourd'hui, on a le même baccalauréat, quelle que soit la zone dans laquelle on le passe, et comment ce sera demain? Et enfin, ce lien important qui va être réformé par le ministre entre, on va dire, le lycée et l'enseignement supérieur, c'est-à-dire passer à une logique bac-3, bac+3, et plus seulement à cette espèce de couperet que représentait le bac. Est-ce que sur ces trois objectifs, d'abord, il peut y avoir un accord des syndicats, et ensuite, en quoi, selon vous, les mesures telles qu'elles sont prises ne vont pas dans le bon sens, et notamment cette réforme du bac?
Alors, un premier point tout d'abord, si vous regardez le rapport qu'a publié le CNESCO, hein, qui fait des études internationales, sur les épreuves finales, terminales et anonymes, hein, ce qui correspond au baccalauréat français. Depuis 20 ans, on voit que la plupart des pays européens sont venus sur ce modèle. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il est meilleur.
Au détriment, par exemple,
au détriment du contrôle continu et d'évaluation locale faite dans l'établissement.
Même si elle reste anonymisée, hein, comme l'a remarqué même si elle tout peut, à l'heure. Voilà.
Bon, pourquoi? Parce que non seulement ça assure l'égalité de la valeur du diplôme, et que quand vous dites est-ce que le bac est le même quand il était passé dans un lycée d'une banlieue réputée difficile ou d'un centre-ville, oui, parce que pour l'instant les épreuves sont strictement les mêmes, les copies sont anonymées, elles sont donc on peut pas considérer que ce soit entaché d'un quelconque rattachement à l'établissement. Mais aussi au-delà de ça, parce que c'est ce que dit le CNESCO, mais que nous partageons complètement, et là c'est des vrais problèmes de métier, c'est un cadre commun et structurant pour les apprentissages. Parce que en termes d'exigence et en termes de contenu, ça renvoie, bon c'est un peu complexe, mais à toutes les questions de nature de l'évaluation. Vous savez qu'on fait de l'évaluation formative, et on distingue une évaluation sommative et certificative. Quand vous faites de l'évaluation formative, vous voulez récompenser, enfin, et redonner confiance à l'élève qui a progressé, même si, de fait, il a encore beaucoup, un long chemin à faire pour atteindre les objectifs d'acquisition de telle ou telle discipline, mais vous allez l'encourager. Quand vous êtes dans une évaluation certificative, à un moment, vous donnez un diagnostic du niveau d'exigence requis. Et le fait qu'on ait les mêmes épreuves pour tous les élèves fait que ça donne ce cadre aussi dans la façon dont les enseignants conçoivent leurs exigences en termes de et les contenus d'enseignement.
Jean-Marc Huard, cette réforme, notamment avec le contrôle continu, qui pose les questions que vient d'évoquer Frédéric Rollet, est-ce qu'elle ne va pas profondément modifier justement la nature, en effet, du contrôle, c'est-à-dire parce que un contrôle sanction plus qu'un contrôle qui accompagne la formation des élèves, et surtout modifier radicalement les relations entre les élèves et leurs professeurs?
Non, je crois que l'objectif, c'est véritablement que les élèves réussissent mieux dans l'enseignement supérieur. Et donc, il faut effectivement que ces élèves réussissent mieux dans l'enseignement supérieur. Moi, j'ai toujours étonné par tout le débat autour de la question du contrôle continu dans le baccalauréat. Peut-être faut-il, pour que les auditeurs comprennent bien, rappeler que dans le bac 2021, il y aura 40% dit de contrôle continu, organisé en deux parties. 10%, c'est les notes tout au long de l'année, et puis 30%, ce sont des épreuves communes de contrôle continu qui seront anonymes, qui seront à partir d'une banque de sujets nationale. Donc on assurera absolument un brassage complet des corrections, ce ne sera pas les professeurs qui corrigeront les copies. Et on a fait en sorte que ces épreuves rentrent parfaitement dans un format qui permet de ne pas du tout perturber l'organisation des cours. Donc ça, c'est les 40%. Puis les 60% restants, ce sont les 4 épreuves terminales de la classe de terminale, plus l'épreuve de français dont parlait Madame Rollet tout à l'heure en classe de première. Et parmi ces quatre épreuves, il y a les 2 enseignements de spécialité qui dénotent une spécialisation progressive avec des forts coefficients, hein, 16% du baccalauréat pour chacune de ces spécialités, l'épreuve de philosophie qui sera en fin d'année, et un grand oral qui est une nouveauté, puisque toutes les études internationales montrent que les élèves français ne maîtrisent pas suffisamment les compétences orales.
Et c'est un marqueur social très très fort aussi.
Et c'est un marqueur social très très fort, et c'est pour ça que c'est l'école de la République qui doit préparer à l'oral. Je suis pas sûr déjà que ce soit un marqueur plus important ou moins important que l'écrit, que les compétences écrites, hein. Ça, en tout cas, ça se discute. Mais effectivement, à partir du moment où c'est un marqueur social, il faut que l'école de la République véritablement accompagne les élèves dans l'amélioration des compétences orales. Et c'est tout l'enjeu du grand oral. Sur le contrôle continu, je voudrais, si vous permettez, juste ajouter quelque chose. Aujourd'hui, on est... et on va faire en sorte, dans le calendrier du baccalauréat 2021, que les épreuves terminales, notamment les épreuves terminales de spécialité, puissent être comptabilisées dans le dossier que prépare l'élève avant l'examen par les formations de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on a 100% de contrôle continu analysé dans Parcoursup. Demain, on aura une part beaucoup moindre, finalement, de contrôle continu. Donc, voyez, regardons les choses telles qu'elles sont.
Oui, tout de même, Frédéric Rollet, je vous posais tout à l'heure la question du bac et de sa valeur nationale. Vous m'avez répondu aujourd'hui, bac a la même valeur partout, ça c'est en théorie, en pratique on sait bien que c'est pas tout à fait le cas, et surtout on sait que le bac n'est plus tellement, même si c'est le sésame pour entrer à l'université, il ne compte plus dans l'orientation, c'est-à-dire que tous les choix d'orientation se font avant le bac, et on va être accepté ou non, notamment dans les filières sélectives que sont les classes préparatoires ou tout type d'autres filières. Et donc, cette inégalité territoriale, elle joue à plein. Est-ce que, selon vous, la réforme telle qu'elle est pensée, elle empêche d'améliorer cet état de fait, ou est-ce que il n'y aurait quand même pas des choses à faire? Quelles propositions seraient les vôtres alternatives à celles qui sont faites par le gouvernement?
Il y a des choses à faire. Quand je vous disais, il faut réfléchir à la nature des épreuves. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? C'est à la fois le fait qu'on ait acquis un certain nombre de connaissances, mais c'est aussi la capacité, ce qui est la vraie définition des compétences, à les mettre en œuvre, ces savoirs dans un certain nombre de situations. C'est le fait de la non-compensation. Je vous ai dit, si on veut aussi faire que une filière scientifique sanctionne véritablement des connaissances dans le domaine scientifique ou dans le domaine littéraire ou artistique ou sciences économiques, sociales, etc. Bon, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Là où, on verra, j'espère que M. Huard va mettre en place un observatoire qu'on pourra revenir sur certaines choses, parce que je vous ferai cadeau du calendrier des évaluations du futur bac. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'on évalue tout le temps.
Perdre 10 semaines sur les 32.
Oui, il y a deux sessions matières du tronc commun. 2 sessions en première, une en terminale. Les épreuves de spécialité qui ont lieu en mars. Et les épreuves de spécialité, vous ne pouvez pas faire dire qu'on va bloquer dans un lycée toutes les évaluations la même semaine, parce que un élève, il en a 2 au moins, donc il veut vouloir passer les 2 forcément. Donc on peut pas mettre les 2 en parallèle. Donc comme vous pouvez avoir des tas de combinaisons, enfin ça veut dire que vous allez arriver au moins à 8 jours dans un lycée lambda, où fin mars, les élèves de seconde, eux, on sait pas ce qu'on en fera, parce que les profs vont être réquisitionnés pour faire passer des examens et corriger. Et au-delà de ça, c'est toute la question des programmes. Ça veut dire que derrière, vous avez à la va-vite,
on a déjà du mal à
travailler votre programme jusqu'en mars, et vous n'avez pas le temps d'installer une méthodologie. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous pouvez préparer qu'à des épreuves qui sont très formatées, très très standardisées, et qui font pas appel à des compétences complexes.
Jean-Marc Huard, dans ce que vient de dire Frédéric Rollet, je voudrais pas trop interpréter ce qu'elle dit, mais ce que j'entends, c'est un reproche qui est souvent fait à cette réforme, c'est-à-dire qu'on a fait un choix qui est peut-être pédagogique, mais qui est aussi économique, c'est-à-dire alléger économiquement le coût et l'organisation du bac, et au détriment parfois de la pédagogie, c'est-à-dire de la capacité à enseigner sur toute l'année.
Alors alléger l'organisation, oui, alléger le coût, il y a pas de, il y a, enfin franchement, il y a pas de raison objective, hein, et le coût de l'examen, bah,
notamment le nombre d'enseignants qui vont être mobilisés pour corriger, là ils vont corriger, j'imagine, à charge d'emploi.
Très, enfin voilà, très sincèrement, hein, le coût de l'examen par rapport au budget de l'éducation nationale, voilà, c'est quand même quelque chose d'extrêmement minime. Donc c'est pas de ce côté-là.
C'est bien que vous disiez, parce que c'est un argument.
C'est vraiment pas de ce côté-là qu'il faut regarder les choses. En revanche, je veux pas revenir sur notre discussion du début de l'émission, mais l'organisation du baccalauréat, et particulièrement celle que nous venons de vivre, est extrêmement lourde et complexe. C'est pour ça qu'on aura 4 épreuves terminales, finalement. Le reste étant dans l'organisation et dans le fil de l'eau, et au fil de l'eau de l'année. Sur les programmes, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des compétences écrites et des compétences orales. Et sur les enseignements de spécialité qui seront justement sans doute pour beaucoup d'élèves poursuivis dans l'enseignement supérieur, il est absolument nécessaire de maîtriser ses compétences écrites et ses compétences orales. Les programmes sont conçus sur la totalité de l'année scolaire jusqu'en juin. Mais il y aura un temps où ce seront plutôt les compétences écrites avec ces épreuves écrites qui se dérouleront au printemps, hein, fin mars, début avril, et puis un travail sur les programmes toujours, qui sera beaucoup plus orienté dans la perspective du grand oral, qui s'appuiera sur les enseignements de spécialité.
Jean-Marc Huard, hier, dans un entretien au Parisien Aujourd'hui en France, le ministre Jean-Michel Blanquer a dit qu'il tirerait les conséquences de ce qui s'est passé pour faire évoluer les modalités d'organisation et pour se prémunir donc de ce type de situation, telle que la rétention des notes par un certain nombre de professeurs. Vous avez des pistes déjà? Vous pouvez nous dire dans quel sens la réflexion se mène?
Non, mais on va y réfléchir. Il y a déjà eu cette année des innovations intéressantes, par exemple, hein, notamment, nous avons expérimenté la dématérialisation des copies, qui d'ailleurs, dans la perspective du nouveau bac 2021, va permettre un brassage entre professeurs pour les épreuves de contrôle continu.
Et peut-être éviter de perdre des copies aussi.
Alors oui, puisque ça arrive, hein, les pertes de copies. Il faut aussi qu'on travaille, on a eu malheureusement un épisode de fuite. Voilà, donc il faut qu'on travaille aussi davantage sur la question de la sécurisation, fuite de sujet, pardon, qu'on travaille sur la sécurisation, une sécurisation beaucoup plus importante du process, et puis tout cela dans la perspective du bac 2021, qui encore une fois, avec une banque nationale d'épreuves sur les épreuves de contrôle continu, va nous éviter un certain nombre de désagréments et un nombre d'épreuves finalement allégé.
Frédéric Rollet, peut-être non pas réagir à ce qui vient d'être dit, puisque finalement on ne sait pas encore très très bien quelles mesures vont être prises, mais un dernier mot sur le sujet qui était celui de la confiance ou non entre le ministère et les syndicats. Il y a quand même dans la réforme et dans la loi dite de l'école de la confiance, il y a un article, l'article 1, qui cristallise beaucoup comment dire, de reproches de la part des professeurs, et justement sur cette question de la confiance, c'est un article que je ne vais pas lire ici, mais en gros, qui demande un devoir d'exemplarité, oui, de réserve aux professeurs. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, et notamment dans le sens de la confiance entre vous et le ministère?
Si l'objectif était justement d'établir un lien de confiance entre le ministre et ses personnels, l'effet a été strictement inverse, puisque on disposait déjà de tout l'arsenal juridique nécessaire sur tout ce qui concerne les droits et devoirs des enseignants, et là ça a été interprété comme un signal politique justement particulièrement mauvais. Et pour revenir très très vite sur la question des épreuves dans l'établissement, enfin, on va s'échanger les copies entre profs. Il y a des disciplines où il y a 2 profs dans l'établissement. Alors, ça sera au niveau du bassin. Les questions des fuites, les questions de préparation au sujet. Les Anglais font ça. Hein. On prépare les élèves au sujet du bac.
Bah, écoutez, ils voient que tout est possible. Juste un tout petit mot, réagir.
Sur l'article 1, on regarde toujours la première partie de l'article 1. Regardez la seconde partie qui appelle effectivement au respect envers les professeurs. Et très franchement, je crois qu'il
en a besoin.
Et on prône effectivement ce respect envers les professeurs et on remercie l'ensemble des professeurs qui ont accompagné leurs élèves jusqu'au bout.
Merci à tous les deux. Le débat n'est pas terminé, ni entre vous, ni sur cette antenne. Le magazine du week-end s'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h40. Il sera question de cyberarmée, évidemment, 14 juillet oblige, mais aussi de transition écologique. Merci à toute l'équipe programmation, Chloé Rossignol, coordination Hugo Boursier, préparation Isée Sorel et Benjamin Taturier. À la réalisation, c'était Luc-Jean Reynaud, et à la
reprise de son Nasser Moussaoui